Chapitre 9e, dans les ténèbres. Une chambre d'hôtel à Amiens. Pour la première fois, Arsène Lupin reprend un peu conscience. Clarisse est à son chevet, ainsi que le balut. Tous deux, ils causent et Lupin, sans ouvrir les yeux, écoute. Il apprend que l'on a craint pour ses jours, mais que tout péril est écarté. Ensuite, au cours de la conversation, il saisit certaines paroles qui lui révèlent ce qui s'est passé dans la nuit tragique de Mortepierre, la descente de Dobrec, l'effarement des complices qui ne reconnaissent pas le patron, puis la lutte brève, Clarisse qui se jette sur Dobrec et qui est blessée d'une balle à l'épaule, Dobrec qui bondit sur la rive, Grognard qui tire de coups de revolver et qui s'élance à sa poursuite, le balut qui grimpe à l'échelle et qui trouve le patron évanoui. « Est vrai, » explique le balut, « je me demande encore comment il n'a pas roulé. Il y avait bien un creux à cet endroit, mais un creux en pente, et il fallait que même à moitié mort il s'accroche de ses 10 doigts. Nom d'un chien, il était temps. » Lupin écoute, écoute désespérément. Il rassemble ses forces pour recueillir et comprendre les mots. Mais soudain, une phrase terrible est prononcée, Clarisse, en pleurant, parle des 18 jours qui viennent de s'écouler, 18 jours nouveaux perdus pour le salut de Gilbert. 18 jours. Ce chiffre épouvante Lupin. Il pense que tout est fini, que jamais il ne pourra se rétablir et continuer la lutte, et que Gilbert et Vaucheray mourront. Son cerveau lui échappe. C'est encore la fièvre, encore le délire. Et d'autres jours vinrent. Peut-être est-ce l'époque de sa vie dont Lupin parle avec le plus d'effroi. Il gardait suffisamment de conscience, et il avait des minutes assez lucides pour se rendre compte exact de la situation. Mais il ne pouvait coordonner ses idées, suivre un raisonnement, et indiquer à ses amis, ou leur défendre, telle ligne de conduite. Quand il sortait de sa torpeur, il se trouvait souvent la main dans la main de Clarisse, et en cet état de demi-sommeil où la fièvre vous maintient, il lui jetait des paroles étranges, des paroles de tendresse et de passion, l'implorant et la remerciant, et la bénissant de tout ce qu'elle apportait, dans les ténèbres de lumière et de joie. Puis, plus calme, et sans bien comprendre ce qu'il avait dit, il s'efforçait de plaisanter. « J'ai eu le délire, n'est-ce pas ? Ce que j'ai dû raconter de bêtises. » Mais au silence de Clarisse, Lupin sentait qu'il pouvait dire toutes les bêtises que la fièvre lui inspirait. Elle ne les entendait pas. Les soins qu'elle prodiguait aux malades, son dévouement, sa vigilance, son inquiétude à la moindre rechute, tout cela ne s'adressait pas à lui-même, mais au sauveur possible de Gilbert. Et les pieds anxieusement les progrès de la convalescence. Quand serait-il capable de se remettre en campagne? N'était-ce pas une folie que de s'attarder auprès de lui alors que chaque jour emportait un peu d'espoir? Lupin ne cessait de se répéter, avec la croyance intime qu'il pouvait, par là, influer sur son mal. « Je veux guérir. Je veux guérir. » Et il ne bougeait pas durant des journées entières, pour ne pas déranger son pansement, ou accroître, si peu que ce fût, la surexcitation de ses nerfs. Il s'efforçait aussi de ne plus penser à Dobrec, mais l'image de son formidable adversaire le hantait. Un matin, Arsène Lupin se réveilla plus dispo. La plaie était fermée, la température presque normale. Un docteur de ses amis, qui venait quotidiennement de Paris, lui promit qu'il pourrait se lever le surlendemain. Et dès ce jour-là, en l'absence de ses complices et de Madame Mergy, tous trois partis l'avant-veille en quête de renseignements, il se fit approcher de la fenêtre ouverte. Il sentait la vie rentrer en lui avec la clarté du soleil, avec un air plus tiède qui annonçait l'approche du printemps. Il retrouvait l'enchaînement de ses idées, et les faits se rangeaient dans son cerveau selon leur ordre logique et selon leur rapport secret. Le soir, il reçut de Clarisse un télégramme lui annonçant que les choses allaient mal et qu'elle restait à Paris ainsi que Grognard et le balut. Très tourmenté par cette dépêche, il passa une nuit moins bonne. Quelles pouvaient être les nouvelles qui avaient motivé la dépêche de Clarisse? Mais le lendemain, elle arriva dans sa chambre, toute pâle, les yeux rougis de larmes, et elle tomba à bout de force. « Le pourvoi en cassation est rejeté, » balbutia-t-elle. Il se domina et dit d'une voix étonnée, « Vous comptiez donc là-dessus ? » ?»« Non, non, mais tout de même, on espère, malgré soi. » »« C'est hier qu'il a été rejeté. » Il y a 8 jours. Le balut me l'a caché, et moi je n'osais pas lire les journaux. Lupin insinua. Reste la grâce. La grâce ? Croyez-vous qu'on graciera les complices d'Arsène Lupin ? Elle lança ces mots avec un emportement et une amertume dont il ne parut pas s'apercevoir, et il prononça « Vaucheray, non, peut-être, mais on aura pitié de Gilbert, de sa jeunesse. » « On n'aura pas pitié de lui. Qu'en savez-vous ? J'ai vu son avocat. »« Vous avez vu son avocat, et vous lui avez dit ?»« Je lui ai dit que j'étais la mère de Gilbert, et je lui ai demandé si en proclamant l'identité de mon fils, ça ne pourrait pas influer sur le dénouement, ou tout au moins le retarder. » « Vous feriez cela ? » murmura-t-il. « Vous avoueriez ? La vie de Gilbert avant tout. Que m'importe mon nom ? Que m'importe le nom de mon mari ? Et celui de votre petit Jacques ? » objecta Lupin. « Avez-vous le droit de perdre Jacques et de faire de lui le frère d'un condamné à mort ?» Elle baissa la tête et il reprit. « Que vous a répondu l'avocat ? » ?»« Il m'a répondu qu'un pareil acte ne pouvait servir en rien à Gilbert. Et malgré toutes ses protestations, j'ai bien vu que pour lui... il ne se faisait aucune illusion et que la commission des grâces conclurait à l'exécution. La commission soit, mais le président de la République. Le président se conforme toujours à l'avis de la commission. Il ne s'y conformera pas cette fois. Et pourquoi ? Parce qu'on agira sur lui. Comment ? Par la remise conditionnelle du papier des 27. Vous l'avez donc ? Non. Alors, je l'aurai. Sa certitude n'avait pas fléchi. Il affirmait avec autant de calme et avec autant de foi dans la puissance infinie de sa volonté. Elle haussa légèrement les épaules, moins confiante en lui. Si d'Albufex ne lui a pas dérobé la liste, un seul homme pourrait agir, un seul, Daubrecq. Elle dit ces mots d'une voix basse et distraite qui le fit tressaillir. Pensait-elle donc encore, comme souvent il l'avait cru le sentir, à revoir Daubrecq et à lui payer le salut de Gilbert ? « Vous m'avez fait un serment, » dit-il. « Je vous le rappelle. Il fut convenu que la lutte contre Daubrecq serait dirigée par moi, sans qu'il n'y ait jamais possibilité d'accord entre vous et lui. » Elle répliqua. « Je ne sais même pas où il est. Si je le savais, ne le sauriez-vous pas ?» La réponse était évasive, mais il n'insista pas, se promettant de la surveiller au moment opportun, et lui demanda, car bien des détails encore ne lui avaient pas été racontés. « Alors on ignore ce qu'est devenu Daubrecq ? On l'ignore. » Évidemment, l'une des balles de Grognard l'atteignit, car le lendemain de son évasion, nous avons recueilli dans un fourré un mouchoir plein de sang. En outre, on vit, paraît-il, à la station d'Aumale, un homme qui semblait très las et qui marchait avec beaucoup de peine. Il prit un billet pour Paris, monta dans le premier train qui passa, et c'est tout ce que nous savons. « Il doit être blessé grièvement, » prononça Lupin, « et il se soigne dans une retraite sûre. Peut-être aussi juge-t-il prudent de se soustraire. » durant quelques semaines, au piège possible de la police, de d'Albufex, de vous, de moi, de tous ses ennemis. Il réfléchit et continua. À Mortepierre, que s'est-il passé depuis l'évasion ? On n'a parlé de rien dans le pays ? Non. Dès l'aube, la corde était retirée, ce qui prouve que Sébastiani et ses fils se sont aperçus la nuit même de la fuite de Daubrecq. Toute cette journée-là, Sébastiani fut absent. « Oui, il aura prévenu le marquis. Et celui-ci, où est-il ? Chez lui. Et d'après l'enquête de Grognard, là non plus, il n'y a rien de suspect. Est-on certain qu'il n'a pas pénétré dans l'hôtel du square Lamartine ? Aussi certain qu'on peut l'être. Daubrecq non plus. Daubrecq non plus. Vous avez vu Prasville ? Prasville est en congé, il voyage. Mais l'inspecteur principal Blanchon, qui l'a chargé de cette affaire, et les agents qui gardent l'hôtel... affirme que, conformément aux ordres de Prasville, leur surveillance ne se relâche pas un instant, même la nuit, que, à tour de rôle, l'un d'eux reste de faction dans le bureau et par conséquent que personne n'a pu s'introduire. Donc, en principe, conclut Arsène Lupin, le bouchon de cristal se trouverait encore dans le bureau de Daubrecq. S'il s'y trouvait avant la disparition de Daubrecq, il doit se trouver encore dans ce bureau. Et sur la table de travail ? Sur la table de travail, pourquoi dites-vous cela ? « Parce que je le sais, » dit Lupin, qui n'avait pas oublié la phrase de Sébastiani. « Mais vous ne connaissez pas l'objet où le bouchon est dissimulé ? Non ? Mais une table de travail, c'est un espace restreint. En 20 minutes, on l'explore. En 10 minutes, s'il le faut, on la démolit. » La conversation avait un peu fatigué Arsène Lupin. Comme il ne voulait commettre aucune imprudence, il dit à Clarisse, « Écoutez, je vous demande encore 2 ou 3 jours. Nous sommes aujourd'hui lundi le 4 mars. Après-demain, mercredi, jeudi au plus tard, je serai sur pied. Soyez certaines que nous réussirons. D'ici là, retournez à Paris. Installez-vous avec Grognard et le Balu à l'hôtel Franklin près du Trocadéro et surveillez la maison de Dobrec. Vous y avez vos entrées libres. Stimulez le zèle des agents. Si Dobrec revient, s'il revient, tant mieux, nous le tenons. Et s'il ne fait que passer, en ce cas, Grognard et le Balu doivent le suivre. Et s'il perd sa trace ? Lupin ne répondit pas. Nul ne sentait plus que lui. Tout ce qu'il y avait de funeste a demeuré inactif dans une chambre d'hôtel, et combien sa présence eût été utile sur le champ de bataille. Peut-être même cette idée confuse avait-elle prolongé son mal au-delà des limites ordinaires. Il murmura « Allez-vous-en, je vous en supplie. » Il y avait entre eux une gêne qui croissait avec l'approche du jour épouvantable. Injuste, oubliant, ou voulant oublier que c'était elle qui avait lancé son fils dans l'aventure d'Anguin, Madame Hergy n'oubliait pas que la justice poursuivait Gilbert avec tant de rigueur, non pas tant comme criminel que comme complice de Lupin. Et puis, malgré tous ses efforts, malgré les prodiges de son énergie, à quel résultat, en fin de compte, Lupin avait-il abouti ? En quoi son intervention avait-elle profité à Gilbert ? Après un silence, elle se leva et le laissa seul. Le lendemain, il fut assez faible, mais le surlendemain, qui était le mercredi, comme son docteur exigeait qu'il restât encore jusqu'à la fin de la semaine, il répondit « Sinon, qu'ai-je à craindre ? Que la fièvre ne revienne. Pas davantage ? Non. La blessure est suffisamment cicatrisée. Alors, advienne que pourra. Je monte avec vous dans votre auto. À midi, nous sommes à Paris. » Ce qui déterminait Lupin à partir sur le champ, c'était d'abord une lettre de Clarisse ainsi conçue « J'ai retrouvé les traces de Dobrec ». Et c'était aussi la lecture d'un télégramme publié par les journaux d'Amiens, télégramme annonçant l'arrestation du marquis d'Albufex compromis dans l'affaire du canal. Dobrec se vengeait. Or, si Dobrec pouvait se venger, c'est que le marquis n'avait pu, lui, prévenir cette vengeance en prenant le document qui se trouvait sur la table même du bureau. C'est que les agents et l'inspecteur principal Blanchon, établi par Praville dans l'hôtel du Square Lamartine, avaient fait bonne garde. Bref, c'est que le bouchon de cristal était encore là. Il y était encore et cela prouvait ou bien que Dobrec n'osait pas rentrer chez lui, ou bien que son état de santé l'en empêchait, ou bien encore qu'il avait assez de confiance dans la cachette pour ne pas prendre la peine de se déranger. En tout cas, il n'y avait aucun doute sur la conduite à suivre. Il fallait agir et agir au plus vite. Il fallait devancer Dobrec et s'emparer du bouchon de cristal. Aussitôt le bois de Boulogne franchi et l'automobile parvenu aux environs du Square Lamartine, Lupin dit adieu au docteur et se fit arrêter. Grognard et le Balu, à qui il avait donné rendez-vous, le rejoignirent. « Et Madame Mergy, leur dit-il, elle n'est pas rentrée depuis hier. Nous savons par un pneumatique qu'elle a vu Dobrec sortant de chez ses cousines et montant en voiture. Elle a le numéro de la voiture et doit nous tenir au courant de ses recherches. Et depuis ? Depuis rien. Pas d'autres nouvelles ? Si, dans le Paris Midi. Cette nuit, dans sa cellule de la santé, Dalufex s'est ouvert les veines avec un éclat de verre. Il laisse, paraît-il, une longue lettre. Lettre d'aveu et d'accusation en même temps, avouant sa faute, mais accusant Dobrec de sa mort et exposant le rôle joué par Dobrec dans l'affaire du canal. C'est tout ? Non. Le même journal annonce que, selon toute vraisemblance, la commission des grâces, après examen du dossier, a rejeté la grâce de Vaucheray et de Gilbert et que vendredi, probablement, le président de la République recevra leurs avocats. Lupin eut un frisson. « Ça ne traîne pas, » dit-il. On voit que Dobrec a donné, dès le premier jour, une impulsion vigoureuse à la vieille machine judiciaire. Une petite semaine encore et le couperet tombe. Ah, mon pauvre Gilbert, si après-demain le dossier que ton avocat apportera au président de la République ne contient pas l'offre inconditionnelle de la liste des 27, mon pauvre Gilbert, tu es bien fichu. Voyons, voyons, patron, c'est vous qui perdez courage. Moi ? Quelle bêtise ! Dans une heure, j'aurai le bouchon de cristal. Dans 2 heures, je verrai l'avocat Gilbert et le cauchemar sera fini. Bravo, patron, on vous retrouve. Nous vous attendons ici. Non, retournez à l'hôtel. Je vous rejoins. » Ils se quittèrent. Lupin marcha droit vers la grille de l'hôtel et sonna. Un agent lui ouvrit, qui le reconnut. « Monsieur Nicole, n'est-ce pas ?»«
Oui, c'est moi. L'inspecteur principal Blanchon est là ?»«
Il est là. Puis-je lui parler ?» On le conduisit dans le bureau où l'inspecteur principal Blanchon l'accueillait avec un empressement visible.
« Monsieur Nicole, j'ai ordre de me mettre à votre entière disposition, et je suis même fort heureux de vous voir aujourd'hui. »«
Et pourquoi donc, monsieur l'inspecteur principal ?»«
Parce qu'il y a du nouveau. Quelque chose de grave,
très grave. »«
Vite, parlez !»
Dobrec est revenu.
« Hein, quoi ?»
s'écria Lupin avec un sursaut. « Dobrec est revenu ? Il est là ?»«
Non, il est reparti. »«
Il est entré ici, dans ce bureau ?»«
Oui. »«
Quand ?»«
Ce matin. »«
Et vous ne l'avez pas empêché ?»«
De quel droit ?»«
Et vous l'avez laissé seul ?»«
Sur son ordre absolu, oui, nous l'avons laissé seul. »
Lupin se sentit pâlir. Dobrec était revenu chercher le bouchon de cristal. Il garda le silence assez longtemps et il répétait en lui-même « Il est revenu le chercher. Il a eu peur qu'on ne le trouvât, et il l'a repris. Parbleu, c'était inévitable. D'Albufex arrêté, d'Albufex accusé et accusant, il fallait bien que Dobrec se défendît. La partie est rude pour lui. Après des mois et des mois de mystère, le public apprend enfin que l'être infernal qui a combiné tout le drame des 27 et qui déshonore et qui tue, c'est lui, Dobrec. Que deviendrait-il si, par miracle, son talisman ne le protégeait plus? Il l'a repris. Il dit d'une voix qu'il tâchait d'assurer.
Il est resté longtemps.
20 secondes, peut-être.
Comment 20 secondes? Pas davantage?
Pas davantage. Quelle heure était-il?
10 heures.
Pouvait-il connaître alors le suicide du marquis d'Albufex?
Oui.
J'ai vu dans sa poche l'édition spéciale que le Paris Midi a publiée à ce propos.
C'est bien cela.
« C'est bien cela, » dit Lupin, et il demanda encore. « Monsieur Praville ne vous avait pas donné d'instructions spéciales concernant le retour possible de Dobrec ?»«
Non. » »«
Aussi, en l'absence de Monsieur Praville, j'ai téléphoné à la préfecture et j'attends. »« La disparition du député Dobrec a fait, vous le savez, beaucoup de bruit, et notre présence ici est admissible aux yeux du public tant que dure cette disparition. » Mais puisque Dobrec est revenu, puisque nous avons la preuve qu'il n'est ni séquestré ni mort, pouvons-nous rester dans cette maison ?
Qu'importe,
fit Lupin distraitement, qu'importe que la maison soit gardée ou non, Dobrec est venu, donc le bouchon de cristal n'est plus là. Il n'avait pas achevé cette phrase qu'une question s'imposa naturellement à son esprit. Si le bouchon de cristal n'était plus là, cela ne pouvait-il se voir un signe matériel quelconque ? L'enlèvement de cet objet, contenu sans aucun doute dans un autre objet, avait-il laissé une trace, un vide? La constatation était aisée. Il s'agissait tout simplement d'examiner la table, puisque Lupin savait, par les plaisanteries de Sébastiani, que c'était là l'endroit de la cachette. Et cette cachette ne pouvait être compliquée puisque Dobrec n'était pas resté dans son bureau plus de 20 secondes, le temps, pour ainsi dire, d'entrer et de sortir. Lupin regarda, et ce fut immédiat. Sa mémoire avait enregistré si fidèlement l'image de la table avec la totalité des objets posés sur elle que l'absence de l'un d'entre eux le frappa instantanément comme si cet objet, et celui-là seul, eût été le signe caractéristique qui distingua cette table de toutes les autres tables. « Oh » pensa-t-il avec un tremblement de joie, « tout concorde, tout... » jusqu'à ce commencement de mots que la torture arrachait à Dobrec dans la tour de Mortepierre. L'énigme est déchiffrée. Cette fois, il n'y a plus d'hésitation possible, plus de tâtonnement, nous touchons au but. » Et sans répondre aux interrogations de l'inspecteur, il songeait à la simplicité de la cachette. Et il se rappelait la merveilleuse histoire d'Edgar Poe ou la lettre volée, et recherchée si avidement, est en quelque sorte offerte aux yeux de tous. On ne soupçonne pas ce qui ne semble point se dissimuler. « Allons, » dit Lupin en sortant, très surexcité par sa découverte. « Il est écrit que dans cette sacrée aventure, je me heurterai jusqu'à la fin aux pires déceptions. Tout ce que je bâtis s'écroule aussitôt. Toute conquête s'achève en désastre. »
Cependant, il ne se laissait pas abattre. D'une part, il connaissait la façon dont le député Dobrec cachait le bouchon de cristal. D'autre part, il fallait savoir, par Clarisse Mergy, la retraite même de Dobrec. Le reste, dès lors, ne serait plus qu'un enfantillage pour lui. Grognard et le Balu l'attendaient dans le salon de l'hôtel Franklin, petit hôtel de famille, situé près du Trocadéro. Madame Mergy ne leur avait pas encore écrit. « Bah, dit-il, j'ai confiance en elle. Elle ne lâchera pas Dobrec avant d'avoir une certitude. » Cependant, à la fin de l'après-midi, il commença à perdre patience et à s'inquiéter. Il livrait une de ses batailles, la dernière, espérait-il, où le moindre retard risquait de tout compromettre. Que Dobrec dépista Madame Mergy, comment le rattraper? On ne disposait plus, pour réparer les fautes commises, de semaines ou de jours, mais plutôt de quelques heures, d'un nombre d'heures effroyablement restreint. Apercevant le patron de l'hôtel, il l'interpella. « Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de pneumatique au nom de mes deux amis ?»« Absolument sûr, monsieur. »« Et à mon nom, au nom de monsieur Nicole, pas davantage. »« C'est curieux, » dit Lupin. « Nous comptions avoir des nouvelles de madame Audran. » C'était le nom sous lequel Clarisse était descendue. « Mais cette dame est venue, » s'écria le patron. « Vous dites ?»« Elle est venue tantôt, et comme ces messieurs n'étaient pas là, elle a laissé une lettre dans sa chambre. Le domestique ne vous en a-t-il pas parlé ?» En hâte, Lupin et ses amis montèrent. Il y avait en effet une lettre sur la table. « Tiens, » dit Lupin, « elle est décachetée. Comment se fait-il ? Et puis pourquoi ces coups de ciseaux ?» La lettre contenait ces lignes. Dobrec a passé la semaine à l'hôtel central. Ce matin, il a fait porter ses bagages à la gare de... Et il a téléphoné qu'on lui réserve une place de sleeping car pour... Je ne sais pas l'heure du train, mais je serai tout l'après-midi à la gare. « Venez tous les trois aussitôt que possible, on préparera l'enlèvement. »« Eh bien quoi ?» dit le Balu. « À quelle gare et pour quel endroit le sleeping ? Elle a coupé juste l'emplacement des mots. »« Mais oui, » fit Grognard, « deux coups de ciseaux à chaque place. Et les seuls mots utiles ont sauté. Elle est raide, celle-là. Madame Mergy a donc perdu la tête. » Lupin ne bougeait pas. Un tel afflux de sang battait ses tempes qu'il avait collé ses poings contre elle, qu'il serrait de toutes ses forces. La fièvre remontait en lui, brûlante, tumultueuse, et sa volonté, exaspérée jusqu'à la souffrance, se contractait sur cette ennemie sournoise qu'il fallait étouffer instantanément s'il ne voulait pas lui-même être vaincu sans retour. Il murmura, très calme, « Dobrec est venu ici. »« Dobrec ? Pouvons-nous supposer que Mme Mergy se soit divertie à supprimer elle-même ces deux mots ?»« Dobrec ! Est venu ici. Madame Mergy croyait le surveiller. C'est lui qui la surveillait. Comment ? Sans doute par l'intermédiaire de ce domestique qui ne nous a pas avertis, nous, du passage à l'hôtel de Madame Mergy, mais qui aura averti Dobrec. Il est venu, il a lu la lettre, et par ironie, il s'est contenté de couper les mots essentiels. Nous pouvons le savoir, interroger. À quoi bon ? À quoi bon savoir comment il est venu, puisque nous savons qu'il est venu ? Il examina la lettre assez longtemps, la tourna et la retourna, puis se leva et dit « Allons-nous-en. Mais où ? Gare de Lyon, vous êtes sûr ? Je ne suis sûr de rien avec Dobrec, mais comme nous avons à choisir, selon la teneur même de la lettre, entre la gare de l'Est et la gare de Lyon, je suppose que ses affaires, ses plaisirs, sa santé conduisent plutôt Dobrec vers Marseille et la Côte d'Azur que vers l'Est de la France. » Il était plus de 7 heures du soir lorsque Lupin et ses compagnons quittèrent l'hôtel Franklin. À toute allure, une automobile leur fit traverser Paris. Mais ils purent, en quelques minutes, constater que Clarisse Mergy n'était point à l'extérieur de la gare, ni dans les salles d'attente, ni sur les quais. « Pourtant, pourtant, » ronchonnait Lupin, dont l'agitation croissait avec les obstacles. « Pourtant, si Dobrec a retenu un sleeping, ce ne peut être que dans un train du soir. Il n'est que 7h30. » Un train partait, le rapide de nuit. Ils eurent le temps de galoper le long des couloirs. Personne. Ni Madame Mergy, ni Dobrec. Mais comme ils s'en allaient tous les trois, un homme de peine, un porteur, les accosta devant le buffet. « Y a-t-il un de ces messieurs qui s'appelle Monsieur le Balu ?»«
Oui, oui, moi, » fit Lupin. « Vite, que voulez-vous ? » ?»«
Ah, c'est vous, monsieur. » La dame m'avait bien dit que vous seriez peut-être trois, peut-être deux, et je ne savais pas trop.
Mais pour Dieu, parlez donc, quelle dame ?
Une dame qui a passé la journée sur le trottoir, près des bagages, à attendre.
Et puis, parlez donc, elle a pris un train.
Oui, le train de luxe, à 6h30. Au dernier moment, elle s'est décidée.
Qu'elle m'a dit de vous dire ?
Et elle m'a dit de vous dire aussi que le monsieur était dans ce train-là, et qu'on allait à Monte-Carlo.
Ah, crénom !
Murmura Lupin.
Il lui fallut prendre le rapide, il y a un instant.
Maintenant, il ne reste plus que les trains du soir, et ils n'avancent pas. C'est plus de 3 heures que nous perdons.
Le temps leur parut interminable. Ils retinrent leur place. Ils téléphonèrent au patron de l'hôtel Franklin qu'on renvoya leur correspondance à Monte-Carlo.
Ils dînèrent. Ils lurent les journaux. Enfin, à 9h30, le train s'ébranla.
Ainsi donc, par un concours de circonstances vraiment tragiques, au moment le plus grave de la lutte, Lupin tournait le dos au champ de bataille et s'en allait, à l'aventure, chercher il ne savait où, vaincre il ne savait comment, le plus redoutable et le plus insaisissable des ennemis qu'il eût jamais combattu. Et cela se passait 4 jours, 5 jours au plus, avant l'inévitable exécution de Gilbert et de Vaucheray. Cette nuit-là fut rude et douloureuse pour Lupin. À mesure qu'il étudiait la situation, elle lui apparaissait plus terrible. De tous côtés, c'était l'incertitude, les ténèbres, le désarroi, l'impuissance. Il connaissait bien le secret du bouchon de cristal, mais comment savoir si Dobrec ne changerait pas ou n'avait pas changé déjà de tactique? Comment savoir si la liste des 27 se trouvait encore dans ce bouchon de cristal? Et si le bouchon de cristal se trouvait encore dans l'objet où Dobrec l'avait d'abord caché? Et quel autre motif d'inquiétude en ce fait que Clarisse Mergy croyait suivre et surveiller Dobrec alors qu'au contraire, c'était Dobrec qui la surveillait, qui se faisait suivre et qui l'entraînait avec une habileté diabolique vers les lieux choisis par lui, loin de tout secours et de toute espérance de secours. Ah, le jeu de Dobrec était clair. Lupin ne savait-il pas les hésitations de la malheureuse femme? Ne savait-il pas? Et Grognard et le Balu le lui confirmèrent de la façon la plus formelle, que Clarisse envisageait comme possible, comme acceptable, le marché infâme projeté par Dobrec. En ce cas, comment pouvait-il réussir, lui? La logique des événements, dirigée de si puissante manière par Dobrec, aboutissait au dénouement fatal. La mère devait se sacrifier et, pour le salut de son fils, immoler ses scrupules, ses répugnances, son honneur même.
« Ah, bandit !» grinçait Lupin avec des élans de rage.
« Si je t'empoigne au collet, tu danserais une gigue pas ordinaire.
Vrai, je ne voudrais pas être à ta place ce jour-là. »
Ils arrivèrent à 3 heures de l'après-midi. Tout de suite, Lupin eut une déception, en n'apercevant pas Clarisse sur le quai de la gare à Monte-Carlo. Il attendit, aucun messager ne l'accosta. Il interrogea les hommes d'équipe et les contrôleurs. Il n'avait pas remarqué, dans la foule, des voyageurs dont le signalement correspondit à celui de Dobrec et de Clarisse. Il fallait donc se mettre en chasse et fouiller les hôtels et les pensions de la principauté. Que de temps perdu! Le lendemain soir, Lupin savait, à n'en pas douter, que Dobrec et Clarisse n'étaient ni à Monte-Carlo, ni à Monaco, ni au Cap d'Aille, ni à la Turbie, ni au Cap Martin.
« Alors quoi ? » disait-il, tout frémissant de colère.
Enfin, le samedi, à la poste restante, on leur délivra une dépêche réexpédiée par le patron de l'hôtel Franklin et qui disait « Il est descendu à Cannes et reparti pour San Remo, hôtel Palace des Ambassadeurs, Clarisse. » La dépêche portait la date de la veille.
« Crebleu ! » s'exclama Lupin.
« Ils ont passé par Monte-Carlo.
Il fallait que l'un de nous restât de faction à la gare. J'y ai pensé, mais au milieu de cette bousculade... »
Lupin et ses amis sautèrent dans le premier train qui s'en allait vers l'Italie. À midi, ils traversèrent la frontière. À 12h40, ils entraient en gare de San Remo. Aussitôt, ils apercevaient un portier dont la casquette galonnée offrait cette inscription « Ambassadeur Palace » et qui semblait chercher quelqu'un parmi les arrivants. Lupin s'approcha de lui. « Vous cherchez Monsieur le Balu, n'est-ce pas ?»«
Oui, Monsieur le Balu et deux messieurs. »«
De la part d'une dame, n'est-ce pas ?»
« Oui, Madame Mergy.
Elle est dans votre hôtel ?»«
Non. »« Elle n'est pas descendue du train. Elle m'a fait signe de venir, m'a donné le signalement de ces trois messieurs et m'a dit « Vous les préviendrez que l'on va jusqu'à Gênes, hôtel Continental. » Elle était seule ?
Oui.
Lupin congédia cet homme après l'avoir rémunéré, puis se tournant vers ses amis. « Nous sommes aujourd'hui samedi. Si l'exécution a lieu lundi, rien à faire. Mais le lundi, c'est peu probable. Donc, il faut que cette nuit, j'ai mis la main sur Dobrec et que lundi, je sois à Paris avec le document. C'est notre dernière chance. Courons-la. » Grognard se rendit au guichet et prit trois billets pour Gênes. Le train sifflait. Lupin eut une hésitation suprême. «
Non, vraiment, c'est trop bête.
Quoi ? Qu'est-ce que nous faisons ?
C'est à Paris que nous devrions être. Voyons, voyons, réfléchissons. »
Il fut sur le point d'ouvrir la portière et de sauter sur la voie. Mais ses compagnons le retinrent. Le train partait. Il se rassit. Et ils continuèrent leur poursuite folle, s'en allèrent au hasard vers l'inconnu. Et cela se passait deux jours avant l'inévitable exécution de Gilbert et de Vaucheray.